Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, comme tous les jours, c'est de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Thierry Moreau, journaliste média, Yaël Mellul, ancienne avocate et fondatrice de Femmes et Libres, et puis Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect. Dans un instant, surpopulation carcérale, faut-il libérer les détenus arrivés en fin de peine, les libérer de manière anticipée, c'est ce que réclament les représentants des avocats d'Île-de-France. Vous nous appelez au 32-16. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, ce sont des menus anti-inflation à 5 euros. Menus proposés par McDo, Quick ou Burger King. Bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'est une prime à la malbouffe? À 14h40, les immanquables avec Alfred Orange. Et puis Alfred, attention, on joue. Et pas pour rien.
Et pas pour rien, parce que mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. Et sur RMC, nous vous offrons 100 places dès aujourd'hui dans chaque émission de RMC. Vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation et j'en passe. Envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
L'appel du jour. Cet appel, il est lancé par les représentants des avocats d'Île-de-France, des bâtonniers. Appel lancé à Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pour remettre en liberté de manière anticipée les détenus arrivés en fin de peine. Alfred, pour eux, pour ces avocats, il s'agit de faire face à une surpopulation carcérale devenue intolérable.
Exactement. Dans cette lettre ouverte au ministère de la Justice, plusieurs bâtonniers d'Île-de-France somment le gouvernement de réagir alors que le taux d'occupation des prisons atteint parfois plus de 100%. À quelques mois des Jeux, la surpopulation carcérale inquiète. Ces avocats redoutent en fait que les délits augmentent pendant les JO et donc qu'il n'y ait plus de place dans les centres pénitentiaires pour incarcérer les coupables. Rien n'est fait par le ministère pour remédier à cette situation, écrivent par exemple ces bâtonniers. Ils demandent donc de libérer de façon anticipée les détenus en fin de peine et de réfléchir à condamner différemment, en privilégiant notamment les travaux d'intérêt général pour faire de la place en cellule d'ici les Jeux.
Surpopulation carcérale, faut-il libérer de manière anticipée les détenus arrivés en fin de peine? Vous nous appelez au 32-16, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. Je vais d'abord m'adresser à l'ancienne avocate, Yaël Mellul. Est-ce que, pour libérer un peu de place dans nos prisons qui sont surpeuplées, il faut libérer les détenus arrivés en fin de peine?
Alors, dans un monde idéal, non. Bien sûr que non. Voilà, je veux dire, il faut, quand on est condamné, il faut purger sa peine, point. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est absolument exceptionnellement dramatique en réalité. Et cet appel des bâtonniers d'Île-de-France, c'est un appel quelque part de désespoir pour répondre à une situation qui est à la fois grave, gravissime et urgentissime. Là, on est dans une situation de surpopulation carcérale qui est du jamais vu. Et face à cela, on a un État qui n'a pas respecté des décisions de justice. Pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné par des arrêts historiques, à deux reprises, la France pour conditions indignes de détention. Et a enjoint la France de remédier à ces situations-là. Je parle d'arrêts de 2023, mais précédemment d'arrêts de 2020. Donc, si vous voulez, face à cette situation, il n'y a absolument aucune anticipation qui a été faite par notre ministre de la Justice. Surtout que, effectivement, il est à craindre que pendant la période des Jeux Olympiques, selon toute vraisemblance, on aura une augmentation de la délinquance. Je veux dire, ça va avec. Et donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait, hein ? Eh ben, on est obligé de vider les prisons parce que, je veux dire, la prison, c'est un état, un état de privation de liberté, mais il ne doit pas être un état de privation de dignité. Or, aujourd'hui, c'est le cas. On va faire quoi? On va se retrouver avec 10 détenus dans une cellule, avec des rats autour, avec dans un, il faut bien comprendre dans quel état se trouvent nos prisons aujourd'hui, dans un état de vétusté, mais absolument catastrophique, avec des conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées, avec une insalubrité des locaux. Enfin, je veux dire, donc face à cela, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut penser aussi au. Sincèrement, parce que c'est un tout, il faut aussi penser au personnel pénitentiaire qui vit des situations.
Absolument.
Extrêmement difficiles.
Absolument.
Juliette Briens.
Non, mais. La surpopulation carcérale est évidemment un scandale sans nom, mais voilà, le fait qu'aujourd'hui on en soit arrivé à y répondre en se disant qu'il faut libérer des prisonniers plus tôt, mais c'est dramatique aussi. Ouais. On l'avait déjà fait pour le Covid, ça a été une catastrophe. Entre les remises de peine et maintenant les prisonniers qui sortent plus tôt, mais plus personne ne va purger sa peine dans ce pays. Je rappelle que en France, on a un taux de récidivisme de 40%. C'est 40% le taux de récidivisme. C'est énorme. Donc les peines ne sont plus dissuasives. Les peines ne dissuadent plus de recommencer. Donc le vrai problème, il est là. Et ces avocats, que je ne blâme pas vraiment, mais qui en appellent à Éric Dupond-Moretti devra surtout répondre de la non-tenue de la promesse de son gouvernement et de son, président Emmanuel Macron, qui avait promis la construction de 15 000 places de prison.
Thierry Moreau.
Le problème, c'est qu'on prend le problème à l'envers. On n'a pas assez de places de prison, elles sont surpeuplées, elles sont indignes. Donc on veut mettre moins de gens en prison. Mais en fait, alors le problème, c'est qu'on a un choc de temporalité. On a le temps long de la construction des prisons. Parce que même si on enclenche aujourd'hui des constructions de prisons, et je suis d'accord avec toi, on est en retard sur le programme, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans. Donc en attendant, on a un problème tout de suite. En revanche, moi, là où je suis pas d'accord avec les avocats, quand ils disent il faut condamner différemment. Qu'on fasse sortir des gens 2 mois ou 3 mois avant la fin de leur peine, de toute façon, faut bien savoir, et les gens le savent, hein, quand on est condamné à 10 ans, on en fait 5. Si on est en bonne conduite, on fait la moitié. Donc si on les fait sortir à 4 ans et quelques mois, et 9 mois au lieu de 5, ça va pas changer grand chose.
Le symbole, il est quand même.
Oui, mais le
symbole est désastreux.
Thierry, le problème, c'est aussi dans les maisons d'arrêt, où on purge, où on passe. Pour la détention provisoire. Oui, c'est pas simplement quand il y a une condamnation.
Le symbole est désastreux, voilà. Mais Juliette, quand tu dis que la prison est criminogène, elle est criminogène en fait, 40% de récidive, on le rappelle, c'est énorme. Pourquoi ? C'est parce que la prison est aujourd'hui indigne, qu'on mélange des dealers et des jeunes délinquants, qu'on mélange des gens qui sont là pour des longues peines avec des gens avec des courtes peines, c'est n'importe quoi. Donc, construisons des prisons, construisons des places de prison, des prisons pas vêtues, des prisons propres, modernes, et puis surtout, ça permettrait de faire, moi c'est le truc auquel je crois, et j'en parle souvent ici, faire des petites peines. On est condamné à 2 semaines, on fait 2 semaines. On est condamné à 2 mois, on fait 2 mois.
Et très tôt, et plus tôt. Ça, vrai.
Mais le problème, c'est que c'est pas faisable.
C'est infaisable aujourd'hui. Oui, mais ce qu'il faudrait faire, ça c'est vrai, il faudrait enfermer plus jeune et moins longtemps. Mais tout de suite.
Ça permet de réfléchir et ça ne te coupe pas de la vie sociale.
Voilà.
Allez, surpopulation carcérale, faut-il libérer les détenus en fin de peine de manière anticipée? Vous nous appelez au 32-16 et Carole est avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour Rémi.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez depuis Paris, c'est ça Carole?
C'est ça, tout à fait.
Et vous êtes personnel pénitentiaire, je l'évoquais tout à l'heure, les personnels pénitentiaires.
C'est ça, voilà.
Bravo pour votre travail.
Voilà, merci. Mais effectivement, celui qui a le mieux résumé la chose, je trouve, c'est M. Moreau. Effectivement, il s'avère qu'on est rendu à des situations où on mélange des petites peines, des longues peines. C'est surpeuplé partout. Et en fait, clairement, si on ne construit pas de prison, c'est aussi parce que personne ne veut de prison à côté
ça,
de chez
vrai.
Lui.
C'est important que vous le disiez, ça, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a de nombreux responsables politiques qui appellent à ça. Et quand il y a une mairie de leur couleur qui refuse l'implantation
de la
prison.
Et que quand il y a un projet, il y a toujours plein de groupes qui se mettent contre. Et du coup, on prend beaucoup de retard. Et il s'avère aussi que l'administration pénitentiaire a un mal fou à recruter. On vient de passer en catégorie B au niveau des fonctionnaires, mais ça changera pas grand-chose, puisque déjà, on a du mal à recruter en temps normal. Là, c'est pas des gens qui ont des bacs qui vont forcément venir chez nous ou qui vont vouloir être officiers, mais en fait, on n'a pas besoin d'officiers, on a besoin de surveillants. Et le métier de surveillant est de plus en plus mal vu, puisqu'on n'est absolument pas respecté.
Carole, la solution... par défaut, qui est proposé par les bâtonniers, les représentants des avocats d'Île-de-France. Là, on est dans cette situation. Elle va pas se régler du jour au lendemain. Il y a les JO qui arrivent. Il va y avoir des entrées dans les prisons. Est-ce que, en attendant, il faudrait libérer les détenus arrivant fin de peine de manière anticipée.
Mais monsieur Barré, il y a déjà une loi qui est passée il y a pas longtemps. Alors je sais pas, je suis pas avocate, mais il y a un texte qui est passé avant pour accéder à la semi-liberté. Les longues peines devaient avoir un parcours d'insertion, devaient avoir un travail, un logement pour accéder à la semi-liberté et en fait la journée sortir, aller travailler ou chercher un emploi et rentrer le soir à la prison. Et maintenant, à partir du moment où vous êtes, alors je crois que c'est à moins de 6 mois de fin de peine, vous pouvez aller en semi-liberté si la prison est surchargée. Nous, on s'est retrouvés à 21 détenus, dealer qui revient tous les 6 mois à peu près, à qui il restait 2 mois à faire, on l'a mis en semi-liberté, pas de projet. Il sortait juste pour aller faire la manche la journée, rentrer le soir, et il n'y avait pas de projet derrière. Et au bout de deux semaines, et ben, il n'est pas rentré, il était en évasion. On l'a récupéré au bout de 3 mois. Là, il a repris 6 mois. Il fait 6 mois en régime normal. Mais du coup, ces choses-là existent déjà. Mais on fait ça à la va-vite, en fait, sans réfléchir. Et à côté de ça, ces gens-là prennent les places de ceux qui vraiment ont eu des longues peines, ont un projet d'aménagement et on leur bloque des places à ces gens-là, en fait. Donc, il y a tout qui va pas. Il y aurait tout le truc à revoir, en fait.
Mais là, ce que proposent les avocats, encore une fois, c'est des libérations massives, hein, parce qu'ils évoquent le cas du Covid.
Oui.
Pendant la période Covid, c'est 20 000 prisonniers, ou 15 000 ou 20 000 prisonniers qu'on avait remis en liberté. Hein.
Catastrophique.
Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'à un moment, on pense aux victimes?
Ah, mais bonne question.
Voilà. Alors là, il y a les JO, dans 2 ans, ça va être autre chose, va y avoir la Coupe du Monde, va y avoir, je sais pas, à un moment... Il faut aussi, si on est capable d'accueillir les JO, on est aussi capable d'avoir un service d'ordre et de sécurité qui fait les choses.
Voilà. Merci Carole d'avoir été avec nous, Carole qui nous appelait au 32-16 rapidement.
Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait, hein ? Je veux dire, on est aujourd'hui face à une situation qui est absolument indigne dans nos prisons françaises et que normalement, on aurait dû anticiper. Voilà, depuis de nombreuses années pour faire face à cette situation exceptionnelle des JO.
Or, ce n'est pas vraisemblablement, on l'a pas fait.
Donc, d'un point de vue, on l'a pas fait. Donc, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qu'on fait, hein ?
Philippe Kuhn est avec nous. Bonjour, Philippe Kuhn.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. On avait une surveillante pénitentiaire juste avant avec nous. Vous l'avez peut-être entendu.
Tout à fait. Je viens d'écouter, oui.
Philippe Kuhn, je vous pose la question à vous aussi en tant que représentant syndical. Cette proposition faite par les bâtonniers, les représentants des avocats d'Île-de-France, une libération anticipée des détenus en fin de peine pour soulager un peu les prisons qui sont pleines à ras-bord, est-ce que ce serait une solution ?
Alors, vous vous rendez compte qu'on est en 2024 et qu'on a encore ce débat aujourd'hui de construction de prisons. Ça me rend complètement dingue. Ça me rend dingue parce que ça fait une trentaine d'années que ce débat existe. On doit construire des prisons, mais on ne le fait jamais. Et là, on se retrouve avec plus de 76 000 détenus, 124% d'occupation dans les prisons françaises, et les JO qui arrivent. Et alors là, les JO qui arrivent, il faut prendre des mesures. On en a pris des mesures exceptionnelles pendant le Covid. Un événement exceptionnel, Covid, mesure exceptionnelle, on peut le faire, ok, on peut comprendre. Libérer des détenus, moi j'entends les propositions du vice-bâtonnier, mais vous vous rendez compte où on en est là maintenant ? On se pose des questions de libérer des détenus avant la fin de peine.
Moi, pour mon avis,
je vais vous donner deux positions. La position de syndicaliste. Moi, pour les conditions d'accueil des détenus, c'est pas normal dans les conditions dans lesquelles on les accueille. Des matelas au sol, etc. Moi, je me mets aussi à leur place. Je peux comprendre que c'est pas normal, c'est pas humain. C'est pas des choses humaines. Je me mets aussi à la place de mes collègues qui travaillent au quotidien dans des détentions surpeuplées et qui font des heures en travaillant. Ils travaillent tous en mode dégradé. Et oui, on n'arrive pas à recruter, on peine à recruter. Et là, on va leur en mettre encore plein. On va encore incarcérer à tour de bras. Moi, ça me rend fou. Il faut pointer du doigt tous ces responsables politiques depuis 30 ans qui ne font rien. Et là, c'est nous qui allons encore subir tout ça. La collègue, elle le disait parfaitement tout à l'heure. Elle l'a résumé. Moi, j'ai visité des quartiers de semi-liberté. Mais ça ressemble à rien. Ils n'ont aucun projet, les types, là-dedans. Normalement, moi, quand je suis rentré dans la pénitentiaire il y a quelques années, un détenu qui était en semi-liberté, c'était un détenu qui avait un projet, qui travaillait du lundi au vendredi, qui rentrait le soir, passait la nuit hébergé dans le centre de semi-liberté, et le week-end, il partait en permission voir sa famille. C'était comme ça. Maintenant, ce qui se passe, ils n'ont aucun projet, ils n'ont rien, ils sortent le matin, et la journée, ils reviennent le soir, ils sont bourrés, ils sont, non mais je vous dis, ils sont alcoolisés, et c'est à nous encore de gérer ça. Mais
en croisant les doigts qu'ils n'aient pas refait des conneries.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Alors libérer les détenus avant, oui, mais faut choisir. Faut pas faire n'importe quoi. Il y a des. Moi, je me mets à la place. Moi, je suis citoyen aussi avant tout. Il est hors de question que j'accepte qu'aucune peine ne soit faite. Moi, c'est mon avis de citoyen. Merci. C'est inacceptable qu'on n'incarcère pas. Parce que il faut payer sa dette à la société. Moi, je le conçois. En tant que citoyen, en tant que syndicaliste, je vous dis, mon avis est plus modéré. C'est-à-dire que moi, si ça peut permettre à mes collègues de mieux travailler, voilà, pourquoi pas. Mais je dis bien, je dis bien, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'en arriver là. Je m'excuse, je suis un peu en colère parce que.
Ah non, mais ça s'entend, vous avez le droit. On le sera moins.
Ça fait des années qu'on a ce débat et les responsables politiques, ben voilà, on fait. Voilà, je veux vous parler aussi d'une chose. On a entendu parler, monsieur le ministre Dupond-Moretti a fait écho de des fameuses SAS, des structures d'aménagement à la sortie. Ben moi, j'en ai visité deux récemment, là. Je peux vous assurer que, déjà, on ouvre avec 10 agents en moins, déjà. Comment voulez-vous bien fonctionner? Et il y a des fois, pour parler de mots, qui a ouvert, il n'y a aucun projet, les détenus n'ont aucun projet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient la journée, ils enquiquinent le surveillant, ils font tout pour repartir en détention classique. Vous voyez? Est-ce que c'est normal, ça?
L'administration. L'administration. Philippe Kuhn, l'administration pénitentiaire, je connais déjà la réponse. L'administration pénitentiaire et la justice sont dépassées, débordées.
Non mais il n'y a même pas besoin de le dire pour que ça se voit, non? Ouais. Ça se voit, c'est clair et net. Le constat, il est affligeant. C'est moi, je peux pas concevoir qu'on ne fasse rien. Alors là, les JO vont arriver, on va mettre tout sous le tapis, on va incarcérer à tour de bras, c'est pas grave. Derrière les murs, il va se passer plein de choses, mais on s'en fout de ça. On s'en fout, ils seront pas en train d'enquiquiner les 15 ou 16 millions de gens qui vont venir voir les JO. Il va falloir faire ça passe joli. Et moi non, c'est pas joli. Nous, on le subit tout le temps, ça. Ouais, on le subit 365 jours par an. On le subit, ça, la surpopulation. Vous voyez, là, moi, je suis inquiet parce qu'on a une vague de retraite, là, qui arrive en juillet, de collègues qui vont partir à la retraite, bien mérités, je préfère le dire. Et ces gens-là, pour les remplacer, ça va être la galère. Ça va être la galère. Et oui, je sais plus quoi dire tellement on en a dit.
Merci Philippe Kuhn, vous avez dit beaucoup de choses et importantes. Merci Philippe Kuhn d'avoir été avec nous, secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. On retourne au 32-16 pour accueillir Damien qui nous appelle donc au 32-16. Bonjour Damien.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
Très bien, et vous-même?
Bonjour Damien. Je vous remercie.
Vous nous appelez depuis Limoges au 32-16, Damien?
Tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie?
Alors moi je suis de la sécurité, je suis rondier intervenant.
Vous êtes, pardon?
Rondier intervenant.
Alors c'est quoi exactement?
Alors c'est la sécurité privée dans le mobile. On se déplace sur les alarmes.
D'accord, très bien. Oui, d'accord. Ah. Sur les alarmes, quand il y a des déclenchements d'alarmes. Société privée. Damien, est-ce que face à la situation dramatique de nos prisons surpeuplées, on vient de l'entendre encore une fois avec Philippe Kuhn, est-ce que il faut libérer les détenus qui arrivent en fin de peine?
Non. Mais non, moi, c'est un non radical pour n'importe quel détenu, ou n'importe quelle peine, parce que moi, je pars du principe, quelqu'un a déposé plainte contre sa personne. Déjà, les peines en France sont pas très évoluées, non pas très hautes. Alors, si on peut dire plutôt tout ça parce qu'on a les JO, moi, je dis non. Il doit rester en prison.
On fait comment, Damien?
On supprime les JO, sinon qu'on soit moins sale de problèmes.
J'ai pas entendu.
On supprime les JO, comme ça au moins il n'y a aucun problème.
Le problème c'est que même si on supprimait les JO, le problème de la surpopulation carcérale ne serait pas réglé, Damien.
Non, ça fait des années que les prisons n'ont pas bougé, n'ont pas évolué en France. Ouais. Et en fait, tant qu'on n'a pas voulu ce niveau-là, il n'y aura aucune justice dans la France. Parce que les gens vont dire, tu auras en prison 5 ans, et en fait, un an plus tard, on va te chercher. Il y a une place qui est libre, on va te chercher.
On n'a jamais autant condamné sévèrement. Donc on a un vrai problème de surpopulation.
Parce qu'il y a beaucoup plus de délinquants qu'avant.
Tout
simplement. Voilà.
Mais Damien, malgré tout, je revois, parce que c'est pas là. Vous allez me dire, il faut construire des prisons. Il faut construire des prisons, Damien.
Il faut construire des prisons. Et surtout, il faut, sinon, on ne construit pas de prison en plus. À ce moment-là, il faut que la justice soit plus sévère pour éviter que les gens fassent des conneries.
Vous parlez de la récidive ?
Il y a des pays, il y a la résidence, des récidives. Il y a des pays où vous faites une fois une connerie, je peux garantir que vous n'êtes plus en prison de votre vie. Hein. C'est fini. Hein.
On se l'a dit,
c'est carré. Hein.
Tout à l'heure, Juliette, je vérifiais les chiffres parce que parfois, et c'est vrai qu'il m'étonnait, je l'avais pas en tête. J'ai regardé un chiffre de l'INSEE. Effectivement, en situation d'incarcération à l'heure actuelle, 40% des détenus incarcérés sont en état de réitération de récidive. Ouais.
Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait, alors la construction de prison, évidemment, il faudrait.
Ce sont des récidives, délits routiers. Hein. C'est ouais. Du délit. Ça tombe à 8% pour les crimes.
Oui. En criminel, c'est 8%. Non, mais tu as raison. Mais bon, 40% de ceux qui sont aujourd'hui incarcérés sont en état de réitération de récidive.
Et il faudrait, pour moi, effectivement, il faudrait enfermer. Plus tôt, plus jeune, moins longtemps. Parce qu'en fait, on laisse des mini-délinquants de plus en plus jeunes se former avec les années. Parce qu'avant 16 ans, ils vont jamais en prison. Avant 18 ans, c'est très très rare. Donc ils ne voient pas l'intérieur d'une cellule jusqu'à ce que ce soit absolument trop tard. Qu'ils soient multi-récidivistes et qu'on puisse plus les sauver en fait.
Merci à Damien d'avoir été avec nous. Stéphane nous rejoint. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis la Creuse. On est où dans la Creuse ?
À Guéret.
À Guéret, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane ?
Chauffeur routier.
D'accord. Est-ce qu'il faut, face à l'urgence de la situation de nos prisons, est-ce qu'il faut libérer les détenus qui, de manière anticipée, qui arrivent en fin de peine ?
Alors déjà, oui, les libérer, mais pas les libérer tout court. Les libérer, donc c'est ce que je disais au standard. Moi, aujourd'hui, il y a plein de casernes désaffectées en France. Je pense, par exemple, dans la Creuse, aujourd'hui, on a la caserne, le camp militaire de la Courtine, qui peut accueillir 4000 hommes aujourd'hui. C'est le premier de France au niveau capacité d'hébergement. Et il fait 6 hectares. Et aujourd'hui, même à Guéret, il y a une caserne militaire aussi ancienne, caserne qui ne sert plus à rien, il y a des logements qui ne servent plus à rien. Et moi aujourd'hui, je dis ces gens-là et tous ces jeunes aujourd'hui qui font des délinquants, les délinquants dans les cités, etc. Aujourd'hui, vous les envoyez à la Courtine pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Et ceux qui sont en fin de peine, vous les envoyez aussi dans ces centres de redressement, centres d'éducation. Et on va me dire oui, mais ça coûte cher. Mais non, ça coûte pas cher, puisque par exemple sur 6 hectares aujourd'hui à la Courtine, eh bien, on peut très bien faire de l'élevage, on peut faire des légumes.
Mais il faut du monde pour les encadrer. Il faut du monde
pour les encadrer, bien sûr. Et bien justement, ces gens qui sortent en fin de peine, et bien pourquoi ne pas les réinsérer, puisque normalement ils sont censés être réinsérés. Ils peuvent très bien servir aujourd'hui à encadrer, avec aussi d'autres gens, bien sûr, qui seraient là pour encadrer. Et aujourd'hui, on peut, voilà, même pour le chauffage, on va dire ça coûte cher en chauffage, en énergie. Mais par exemple, nous, à la Courtine, il y a des hectares et des hectares de forêt. On peut leur faire faire du bois, on peut les faire travailler. Ouais, et tous ces jeunes aujourd'hui, les parents touchent des allocations aujourd'hui, ces jeunes. Ben, toutes ces allocations que touchent les parents, le jeune, vous le sortez de la région parisienne, de la cité, vous l'envoyez à la Courtine pendant un an, pendant deux ans. Déjà, il ne fera plus de trafic. Et les allocations qui sont reversées aux parents, elles sont reversées au centre de redressement. Et le jour où il retournera dans sa famille, s'il est sage, eh ben, les parents retrouveront. Ben, aujourd'hui, il y a des possibilités. Il faut juste le vouloir. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, on voit que ces jeunes, eh ben, on voit les émissions, hein. Ils vont 14 fois arrêter par l'eau, 15 fois arrêter par l'eau. Et en fait, ils n'ont plus peur de rien. Aujourd'hui, les gens, ils agressent d'autres. On a vu, hein, ces jours-ci. Vous voyez, des jeunes qui ont agressé mortellement d'autres jeunes. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis. Envoyez-les pendant un an, deux ans, trois ans dans un camp à la Courtine, un camp de redressement où on va les faire travailler, où le matin on va leur refaire de l'éducation, on va leur refaire faire du français, on va leur refaire faire des mathématiques, ça leur servira à quelque chose, d'accord ? Et l'après-midi, on les fait travailler. Et le fruit de leur travail servira non seulement à rentabiliser le centre de redressement, et il leur fera aussi un petit pécule pour eux, parce que bon, c'est normal que s'ils travaillent, ils soient rémunérés, et ils pourront se réinsérer dans la vie.
Merci Stéphane. Laisser,
voilà, c'est tout.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Stéphane qui nous appelait depuis la Creuse maintenant. Oui,
le problème, c'est l'encadrement.
Non, mais, et puis l'encadrement, puis il faut sécuriser les lieux aussi.
C'est ça.
Voilà, il faut.
C'est pas anodin quand même.
Voilà. Bon, en tout cas, cet avis, il s'entend et Stéphane n'est pas le seul à le partager.
Non, mais il a raison de dire qu'en tout cas, avec de la volonté, on peut tout faire.
Oui, mais justement, absolument. Et tout cela, ça manque de politique pénale. Il y a une absence manifeste de politique pénale parce que tout cela n'a pas été anticipé. Il n'y a aucune anticipation politique.
Surpopulation carcérale, faut-il libérer de façon anticipée les détenus qui arrivent en fin de peine ? On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux. La réponse ?
Vous répondez non à 87%, oui à 13%. Je finis avec deux messages. D'abord Sophia qui dit c'est une bêtise. Les peines doivent être effectuées jusqu'au bout pour les victimes d'abord et puis pour continuer de dissuader. Et puis Laurent qui nous dit je suis pour libérer les petites peines pour faire de la place en prison et je parle en tant qu'ancien détenu.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur du jour sur RMC. Puis avant cela, je vous le rappelle, Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel d'RMC et de BFM TV. Lundi, ce sera de 8h20 jusqu'à 9h, à 100 jours du début des JO. Le président de la République répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs d'RMC, de vous et de nos consultants JO, David Douillet, Marion Bartoli et Rémi Boulet. Si vous voulez poser vos questions au président de la République sur la sécurité, des JO sur la cérémonie d'ouverture, sur la scène, les transports ou encore sur les ambitions de nos athlètes, eh bien il y a déjà une adresse en place. C'est vosquestions@rmc.fr, vosquestions@rmc.fr. Et évidemment, lundi, vous nous appellerez à partir de 8h20 jusqu'à 9h au 32-16. Allez, dans un instant, le meilleur du jour sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Le meilleur du jour sur RMC, c'est notre zapping. Et on commence tout de suite avec les GG.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
L'État doit-il réquisitionner des chômeurs pour cet été? Cela fait plusieurs années que la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture ou l'hôtellerie-restauration persiste. Mais avec les Jeux Olympiques cet été, le recrutement est encore plus complexe. Il manque actuellement 200 000 personnes, rien que dans la restauration. Une situation qui n'est plus durable pour le restaurateur parisien Stéphane Manigold.
Moi, je ne sais pas si, au fond, nous avons une pénurie ou si c'est France Travail qui est en surtension de candidats. Donc, à un moment, il faut, remettre les gens au travail, il faut remettre la valeur travail en place, et puis, il faut aussi intégrer que dans un secteur où on utilise l'intelligence de la main, ce qui est le cas de l'artisanat en France, eh bien, on a un poids qui s'appelle les cotisations et les charges sociales qui sont asphyxiantes et donc qui ne permettent
en
plus...
En fait, ce que tu piches pas, c'est l'adéquation, quoi. L'inadéquation. Ouais, bien C'est-à-dire qu'il y a un taux de chômage qui est élevé dans une région... Il y a une forte demande dans un secteur qui est celui de l'hôtellerie et de la restauration. À un moment, on devrait pouvoir,
faire matcher les deux, quoi.
L'idée, elle est forte, Yael Mellul. Est-ce qu'on réquisitionne des chômeurs?
C'est un peu radical, quand même, comme mesure. Je sais pas, ça me fait penser tout de suite à du travail forcé, en fait. Donc, non, contraint. Voilà, non, c'est une très, très mauvaise idée. Moi, je suis davantage favorable à voir ce qui se passe avec le marché de l'emploi. Il y a forcément, un problème systémique de redistribution entre l'offre et la demande. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et puis, il faut se méfier des solutions simplistes. C'est pas parce qu'on a un manque quelque part et un surplus quelque part qu'en prenant le surplus, on va combler le manque. Je pense que c'est plus complexe que ça. Et puis la deuxième chose, et je rejoins un petit peu ce que dit Yael, c'est que il faudrait pas non plus que ça soit une main d'œuvre à très bas coût
en plus,
pour les gens qui feront travailler ces chômeurs. Non, je pense que c'est un sujet plus complexe que qu'avec une situation simpliste comme ça. Ouais.
Ça peut être des emplois jeunes, je sais pas, ça peut te permettre d'acquérir une formation.
Des formations pour rentrer, ouais. Sauf que les gens les prennent pas.
Après, bon, les 200 000 chômeurs, ils sont pas concentrés qu'à Paris. Pour les JO, il va falloir de la main d'œuvre à Paris, on est d'accord. Mmh. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de venir travailler à Paris non plus. Donc moi, encore une fois, c'est une solution qui m'a l'air complètement bancale, cette histoire. Je sais pas.
Et sauf erreur de ma part, dites-moi vraiment si je me trompe, mais il me semblait que dans la loi immigration, il y avait des dispositions prévoyant de la main-d'œuvre étrangère pour secteurs sous tension. Oui. Donc, manifestement, il y a un problème d'organisation, on va dire.
Et peut-être de salaire aussi.
Peut-être de salaire.
Il y avait un rattrapage des salaires, plus 13% dans l'hôtellerie-restauration.
Vous avez dit le mot, rattrapage. Est-ce que ça rend pour autant les métiers attractifs? Pas sûr.
Mais est-ce que parfois, moi je me fais l'avocat du diable, mais certains le... Même si Stéphane Manigold est loin d'être un diable, certains disent parfois que les chômeurs, il faut peut-être leur mettre un petit coup de pied au derrière.
Ah mais évidemment, mais non, mais aussi, il y a une partie de la population au chômage, évidemment, qui ne trouve pas leur compte à retourner travailler, parce que pour 100-200 euros de plus, c'est pas si marginal que ça.
C'est très marginal, vraiment.
Mais j'en connais, moi, dans ma vie. Mais tout le monde en connaît.
Il y a que 40% des chômeurs qui touchent une allocation déjà.
Et moi, je connais des gens.
Mais je connais des chômeurs professionnels. Moi, j'en connais des dizaines, rien que dans ma ville de naissance. Alors arrêtez de dire que c'est marginal.
Alors, si on les obligeait pendant...
N'importe quoi.
D'abord, il y en a que 40% qui touchent des allocations.
Donc, si on les obligeait pendant un temps donné, dans des conditions particulières, à venir bosser là où on a besoin pour... un événement particulier.
Non, mais là, c'est très spécifique. C'est les JO, etc. C'est à Paris. Ouais, non, non, ça c'est une idée bancale. Mais me dites pas qu'il n'y a pas des chômeurs professionnels qui profitent des aides.
C'est très marginal
du tout.
Il faut arrêter de dire que le chômage, c'est quelque chose qui est voulu. C'est une situation qui est dramatique, qui est super anxiogène, qui est subie et qui est très difficile à supporter pour ceux qui la subissent. Il faut vraiment ne jamais être passé par ce chemin de croix, vraiment. pour pouvoir dire ce genre de choses. Qu'il y ait des gens qui profitent là, du système, ça, comme partout, genre, ça marche pour les allocs, ça marche pour
mais
tout.
Mais il y en a plein. Il y en a plein parce que le système l'autorise. Il y en a plein. Moi, je connais aussi des gens qui se mettent 6 mois au chômage et après ils vont 6 mois en saison. Voilà, ils font 6 mois de saison, ensuite ils font 6 mois de chômage pour partir voyager dans le monde entier. Ça, mais j'en connais des dizaines.
C'est plus possible.
Alors me dites pas que c'est marginal.
Ça n'est plus possible maintenant avec les nouvelles lois chômage.
Allez, les GG, faut-il instaurer un péage plus cher pour les conducteurs seuls? Afin d'accélérer la sobriété énergétique de la France, une députée Renaissance souhaite taxer davantage au péage les conducteurs se trouvant seuls dans leur voiture. Un projet de loi ubuesque pour le consultant du Nord, Antoine Dias.
On est tous d'accord qu'il faut moins polluer, etc. Mais c'est pas parce qu'on est tout seul dans une voiture qu'on pollue si la voiture ne pollue pas. Et donc moi, je suis toujours étonné.
T'as perdu tout le monde là.
Mais non.
Mais moi, j'ai compris ce qu'il veut dire.
Si ta voiture ne pollue pas.
Et si elle pollue pas, il a raison.
C'est pas parce que t'es tout seul dans ta voiture.
Donc t'en vers le débat en fait.
Mais en fait, je dis juste que je ne comprends pas pourquoi, au nom de l'écologie, ils veulent absolument remplir nos bagnoles.
Donc t'es la version 2.
Moi, je dis, distinguons le taux d'occupation du taux de pollution.
Bien sûr.
Et que le péage soit différent selon le fait que le véhicule pollue ou pas, là, je suis prêt à en parler.
Thierry Moreau, j'arrive au péage, je suis tout seul au volant, je paye plus cher, c'est normal?
Non. Vous êtes à 8 dans une bétaillère, enfin, ou un espace qui roule au diesel, vous allez polluer infiniment plus que moi, tout seul, dans ma petite voiture électrique. Donc, non. Je trouve que c'est crétin comme...
C'est complètement débile. Hein. Franchement, je ne vois pas quoi rajouter de plus.
C'est le concours Lépine des idées de débile pour soi-disant afficher... Non, je suis désolé.
C'est de l'écologie incitative.
On a un affichage vers la transition écologique et c'est le concours Lépine des idées les plus saugrenues pour aller vers cette
transition écologique. Le nom de cette députée.
Thierry, ça pourrait inciter au covoiturage.
Mais le covoiturage, quoi, ça nous. Mais vous savez très bien
des
que
les gens partagent les frais d'essence.
Pour que le covoiturage fonctionne, il faudrait que. Et vous savez très bien que c'est très compliqué. Il faut que quelqu'un soit à la même heure, ait besoin d'aller travailler au même endroit, qui vous amène à la même distance. Enfin, c'est un.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Toutes ces taxes écologiques, c'est du foin et c'est pour récupérer du pognon. Parce que quand on a besoin de faire des économies sur des milliards et qu'on nous annonce des restrictions sur les ministères, le premier ministère à qui on enlève de l'argent, c'est le ministère de la transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en foutent. Et que ça, c'est des fausses taxes écologiques pour récupérer de l'argent. C'est tout, on ment aux citoyens. Voilà, au moins que les choses soient claires.
Les GG, toujours pour ou contre le port du voile dans les commerces. Vive polémique depuis qu'un responsable d'une boutique de chaussures à Strasbourg a vivement renvoyé une vendeuse intérimaire parce qu'elle portait le voile. Une séquence qui a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux par la jeune femme et qui a déchaîné évidemment les passions chez de nombreux Français. Pour Thibault, qui témoignait dans les GG, la laïcité doit retrouver toute sa place dans notre société.
On est quand même dans une société qui est laïque, qui est soumise à des codes, parce que la laïcité, ça reste aussi un code, faut pas l'oublier. On a des codes aussi dans le marché du travail, c'est-à-dire que moi, sur mon travail, je pourrais pas venir habillé en jogging ou habillé en short ou avec une casquette, dans la mesure où j'interfère avec des gens. Et donc je me dois d'être le plus transparent possible ou
le plus neutre possible.
Exactement, le plus neutre possible pour les mettre en confiance, pour qu'on travaille en confiance. Je pars du principe que, il est chez lui, on est dans un espace privé, encore une fois.
Oui.
Donc il a le choix. Il a encore une fois le choix. On n'est pas dans l'espace public.
Thierry Moreau,
on a un reversement complet des valeurs dans cette histoire. Ce monsieur, il est dans une boutique, il reçoit quelqu'un en intérim. Il a le droit de demander, puisque c'est une personne qui est en contact avec le public, à ce qu'elle ait une tenue en particulier, elle n'ait pas de voile. Donc il dit, je ne peux pas vous prendre, je vous renvoie à votre société d'intérim. Il se retrouve maintenant victime, puisqu'il est obligé de fermer son magasin. Ouais. Il est harcelé. La personne qui a fait ça se vante sur le réseau d'avoir voulu provoquer, il est menacé de mort. Ouais. Donc le type se retrouve victime, alors qu'il respecte totalement la loi.
C'est droit, en tout cas.
Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a fait de la provocation, qui est aujourd'hui complice de harcèlement, parce que c'est elle qui a mis la vidéo. Ouais. Elle a filmé en plus sans l'accord du monsieur, donc c'est de l'atteinte à la vie privée et l'article 9 du code pénal. Enfin, on est dans un monde à l'envers et n'oublions pas, le voile est un asservissement de la femme. Il faut le redire, le dire et le redire, et que il n'a pas sa place puisque on est dans un lieu privé et que le patron fait ce qu'il veut. Il n'a pas sa place en l'occurrence dans ce cas d'espèce.
Oui, non, mais
Juliette.
Moi, je suis extrêmement choquée par cette histoire et parce qu'en fait, cette jeune fille, elle vient de ruiner la vie d'un homme parce qu'il va sûrement perdre de. Il va sûrement perdre son magasin. Pour l'instant, il est fermé. Il est incapable de réouvrir.
C'est agressé, en
fait. Ce qu'elle a fait, c'est exactement ce qui a commencé l'affaire Samuel Paty, par exemple. Donc,
c'est une mise en danger de la vie d'autrui.
Mais évidemment, mais c'est extrêmement grave de faire ça. L'accusation d'islamophobie tue. Elle tue en France. On le sait. Et les jeunes, particulièrement, le savent. Donc, elle l'a fait en toute impunité, en sachant exactement ce qu'elle faisait, sans un regard en arrière pour ce pauvre monsieur. Sans penser qu'il pouvait se retrouver sans emploi, qu'il pouvait se retrouver mort ou blessé. Et surtout, elle sait très bien, elle savait très bien que cet homme aurait réagi exactement de la même manière si c'était un stagiaire, si c'était présenté avec une kippa, par exemple. Mais elle le sait très bien, ça. Elle le sait, mais elle n'en a cure. Et pour son petit plaisir personnel et individuel, se doit bien sûr que si. Bah aller voir son Snapchat ou son Twitter, son TikTok. Je peux vous dire qu'elle est ravie de ce qui lui arrive, ravie. Elle est ravie de ce qui lui arrive. Donc pour son plaisir et surtout son égocentrisme, égoïsme de son droit individuel, soi-disant à porter son voile, elle va ruiner la vie d'un homme.
Yael.
Alors moi, ce qui me semble extrêmement important de rappeler, et tu l'as fait, Thierry, déjà, c'est la loi.
La loi
permet à un employeur, parce qu'on se trouve dans un lieu privé, de décider ou non d'employer une femme qui porte un voile. C'est son droit le plus absolu, a fortiori si dans son règlement intérieur c'est indiqué, est indiqué le principe de neutralité. Voilà. Donc cet employeur de cette enseigne, la Geox, était dans son droit le plus absolu. Et on se retrouve avec une jeune femme qui utilise exactement le même modus operandi qui a été utilisé, par exemple, pour l'affaire dramatique de Samuel Paty. Première étape, provocation. Deuxième étape, victimisation. Troisième étape, bam, on met une cible sur la personne. Et aujourd'hui, cet homme-là se retrouve harcelé et menacé de mort. Donc la prochaine étape, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, peut-être qu'il va être sous protection policière.
L'enseigne n'a pas réagi, hein.
Et l'enseigne n'a pas encore réagi, mais parce qu'ils ont...
C'est très instructif, ça.
Voilà.
Et ça, pas un mot.
Parce qu'ils ont peur. Tout simplement parce qu'ils ont peur. Et ça, si vous voulez, c'est ce harcèlement et ces menaces de mort, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Parce que, on le sait, l'histoire nous l'a montré, il y a des passages à l'acte. Il y a un risque de passage à l'acte. Tout ça pourquoi ? Parce que cette jeune femme, à quelque part, c'est comme si elle avait mis cet homme dans un guet-apens. C'est un guet-apens en fait. C'est une pure provocation. Et les vidéos qu'elle a faites viennent le confirmer parce qu'elle a l'air très heureuse de ce qu'elle a fait.
Elle a affiché le visage de ce gérant de magasin, le magasin, etc., sur tous les réseaux sociaux.
Et d'ailleurs, je crois, hein, sauf erreur encore une fois de ma part, que sur son CV, elle n'était pas sur sa photo.
Elle a expliqué qu'en fait, elle a fait exprès, parce qu'elle est nouvellement voilée. Voilà, elle vient de mettre le voile. Et donc, elle explique qu'elle ne met pas le voile, en fait, sur son CV. Pour après en fait venir avec le voile et piéger en fait le gérant parce qu'elle sait aussi, elle le dit, elle sait qu'il y a très peu de gérants qui accepteraient un voile et donc en fait elle fait exprès de ne pas mettre son voile sur son CV pour pouvoir ensuite piéger le gérant et puis sortir brandir son téléphone. Super, ça fera énormément de vues sur TikTok et puis la vie de ce monsieur, bah on s'en contrebalance.
Et on n'est pas du tout dans une situation, ça c'est très important, ni de stigmatisation, ni de discrimination. On est dans l'application de la loi.
Yael, voilà. Dans ce cas-là, la justice doit se montrer intraitable.
Intraitable, oui. Intraitable. Il y a des vies qui sont en jeu. Littéralement, il y a des hommes qui en sont. Samuel Paty a été décapité avec ce même modus operandi. Donc, faut pas jouer avec le feu. Faut prendre tout ça très très au sérieux. Hein.
Dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va s'engager avec Willy, arnaqué de plus de 7000 euros par des escrocs. Sa banque ne voulait rien entendre, mais nous avons peut-être une bonne nouvelle pour lui. C'est dans un instant, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Solène Leroux est avec nous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Salut Solène.
Salut Rémi, salut tout le monde.
On va venir en aide à Willy. Willy, il a été victime d'un piratage bancaire, et pas un petit piratage. On lui a ponctionné 7200 euros et sur son compte de la Société Générale, c'est ça?
Exactement, il y a un mois, on l'avait rencontré près de Paris, ce grand-père de 88 ans, victime donc d'un piratage bancaire en septembre, alors qu'il rentrait de vacances. Les voleurs avaient réussi à se faire envoyer en fait la nouvelle carte de Willy.
Il avait commandé sa nouvelle carte et en fait
Exactement, interceptée dès qu'elle est arrivée, avant justement d'arriver dans la boîte aux lettres, parce qu'elle n'avait pas été forcée. Et puis ils se sont fait bien plaisir avec la carte bancaire, ils ont pris des taxis, ils ont acheté de l'alcool, de l'électroménager même. Wow. Ouais, c'était pas mal, donc pour 7200 euros. Et depuis, il se battait contre sa banque de toujours, la Société Générale, qui refusait de le rembourser. Il accusait même de négligence. Ouais. Mais 7 petits jours après son passage sur RMC, Willy reçoit un coup de fil alors qu'il est au volant. C'est sa petite fille Manon qui décroche. C'est elle d'ailleurs qui nous avait contacté. Je laisse Willy raconter la suite.
Et là, d'un seul coup, je l'ai vu sauter dans la voiture pour faire me dire, ça y est, on a gain de cause, tu vas être remboursé. Je n'y croyais pas au début. Ah, ça a été une petite fête.
Ah bah oui, on imagine bien, c'est même une jolie fête. 7200 euros, c'est pas rien, hein. Surtout quand on, comme Willy, on est à la retraite. Et comment la Société Générale a justifié ce remboursement?
Eh bah déjà, je le rappelle, si la banque n'a pas de preuve de faute de votre part, elle doit vous rembourser, c'est la loi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mais pour garder la face, la banque n'a rien justifié à Willy.
Aucun commentaire. Ils ont énuméré les 4 ou 5 et 6 chèques qui ont été faits. Et puis c'est tout. Si j'avais pas eu la chance d'être aidé par RMC, ils m'auraient jamais indemnisé, hein. Jamais rendu ces 7200 euros.
Bon. Solène, est-ce que vous avez réussi à avoir un peu plus d'infos du côté de la Société Générale?
Secret bancaire, nous dit-on. Et oui, c'est un grand classique, mais la banque n'en démord pas. Elle assure n'avoir constaté aucune intrusion pouvant amener à ce type de piratage. Bon, voilà, on n'en saura pas plus. Notez l'ironie par contre, Willy a reçu la semaine dernière un joli petit courrier lui rappelant de faire attention aux fraudes.
Ah, on ne sait jamais,
Je rappelle qu'il n'a rien fait, hein, si vous n'avez pas tout à fait compris. En tout cas, il reste très heureux d'avoir récupéré son argent et nous, on est ravis pour lui.
Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, si vous arrive quelque chose, on vous ponctionne votre compte et vous dites à la banque, moi, je n'étais pas au courant, j'ai rien. C'est à la banque de prouver que vous avez commis une négligence. Maintenant, ça marche comme ça.
Ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas à vous de prouver que vous êtes
Bon. Et si la banque le fait pas, elle doit vous rembourser. De toute façon, c'est à celle de se débrouiller.
Mais bon, c'est assez volontairement, d'ailleurs, on dit maintenant que les banques font traîner.
On a une autre bonne nouvelle.
Oui.
Cette fois du côté de la Bretagne.
Exactement. Est-ce que vous vous souvenez d'Hélène, la masseuse de chevaux?
Oui, absolument.
Ah, oui.
Ouais, je m'en souviens.
Super métier déjà.
Ah, masseuse de chevaux, on retient quand même.
Oui, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'elle nous avait écrit. Mmh. C'est parce qu'un chapiteau lui était tombé sur la tête. Alors, c'était pas drôle du tout. Non. Là, pour le coup, résultat, une entorse au cervical qui l'avait éloigné des écuries pendant 3 semaines, avec à la clé 2000 euros de salaire en moins. Comme c'est souvent le cas, RMC s'engage avec vous. C'était un problème d'indemnisation. L'assurance s'était engagée auprès de nous à réétudier le dossier. Et je vous le donne. Bingo! On a réussi. Grâce à nous, Hélène a touché près de 3000 euros pour ses soins et pour compenser la paix. De quoi se remettre en selle.
Que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Solène, et merci à toutes les équipes de RMC Conso. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Solène, ça t'arrive d'aller dans les enseignes de restauration rapide?
Assez peu souvent, là, vraiment.
C'est vrai? Et si je te dis que j'ai un menu à 5 euros, je t'invite.
Où ça?
Je sais pas, McDo, Quick ou Burger King.
Vas-y, invite-moi.
Une grande seigneur. On va en parler. C'est menu anti-inflation qui se multiplie dans la restauration rapide. Menu à 5 euros. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est un appel, une prime à la malbouffe? Vous votez, vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.